48 heures après le terrible drame en Suisse, l'identification des victimes progresse. 40 morts, 50 brûlés, c'est le dernier bilan. Parmi les témoins directs de cette nuit tragique, une Calédonienne, Frédéric Tissandier, travaille aux hôpitaux universitaires de Genève. Son témoignage dans ce journal. À la une de l'actualité calédonienne, la politique, une délégation de 9 députés Ensemble pour la République entamera lundi une visite de 5 jours sur le territoire. En métropole, un nouveau cas de dermatose nodulaire, 113 vaches doivent être abattues en Ariège. En parallèle, les agriculteurs continuent d'être mobilisés. Les sports avec du tennis, Clément Tabur vainqueur du BNC Catherine Bonnet hier soir au receiving, il a dominé Pierre Gerber en finale. Et puis du football avec le retour de la Ligue 1, le leader, le RC Lens, se déplace ce matin sur la pelouse du TFC. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, toujours cet incendie survenu durant la nuit du 1er de l'an dans un bar de la station de ski à Crans-Montana en Suisse. 40 morts, 50 brûlés, c'est le dernier bilan communiqué par les autorités suisses. Sur les 119 blessés, 113 sont identifiés, 14 sont français. Deux jours après le drame, ce terrible incendie, l'identification des victimes progresse. On écoute Jean-Luc Bougeon, envoyé spécial d'Europe 1 à Crans-Montana.
Effectivement, les choses ont bien avancé aujourd'hui sous l'impulsion d'une trentaine de personnes entièrement dédiées à cette tâche d'identification si importante pour les proches de victimes. Aujourd'hui, 36 des 40 personnes décédées ont été identifiées. Il en reste donc 4 dont on ne sait pas qui elles sont. Et justement, Laetitia, une maman originaire de Lausanne en Suisse, est toujours sans nouvelles de son fils Arthur, 16 ans, qui était allé faire la fête le soir du 31 au bar La Constellation. Quand je l'ai rencontré tout à l'heure, elle avait du mal à retenir des larmes, mais malgré tout, elle continue de s'accrocher à l'espoir de retrouver Arthur vivant. Écoutez cette maman.
On nous a donné un chiffre qui restait 4 personnes non identifiées, 3 hommes, 1 femme. Donc maintenant, les chances se réduisent. J'espère juste que je vais le retrouver. Il y a 3 petits espoirs. Je continue encore et encore. On est à plus de 40 heures, je n'ai pas retrouvé mon fils. Donc je continuerai les appels, je continuerai à scruter toutes les vidéos qu'on voit et que je reçois pour savoir si mon fils, si Arthur a réussi à sortir ou pas. Peut-être que Arthur n'est pas en moyen de parler et que du coup, une personne va regarder les réseaux sociaux, la télé ou je ne sais quoi, et qu'elle va dire « Ah, mais il est dans mon service, lui !» Et qu'en fait, peut-être qu'il n'a pas été recensé. Et à ce moment-là, voilà, j'aurais tout fait. J'aurais tout fait pour retrouver mon fils.
Et concernant l'origine du sinistre, nous en savons désormais plus sur ce qui a provoqué le feu. Lors d'une conférence de presse, la procureure générale du canton du Valais, Brigitte Piou, a reconnu qu'il y avait une piste principale.
Tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes ou des feux de Bengale qui ont été mises sur les bouteilles de champagne et le tout a été approché de trop près du plafond. De là, il s'est produit un embrasement rapide, très rapide et général.
Les deux gérants français de l'établissement ont également été entendus, a indiqué la procureure, mais pour l'instant, à simple titre de renseignement, l'enquête se poursuit. Un réveillon de la Saint-Sylvestre dramatique donc en Suisse qui a profondément marqué le pays. Parmi les témoins indirects de cette nuit, une Calédonienne, Frédéric Tissandier, est installée en Suisse depuis une quinzaine d'années. Elle est directrice de la communication des hôpitaux universitaires de Genève, des hôpitaux placés en alerte maximale. Écoutez son témoignage.
J'étais en France pour skier avec des amis. À 9h du matin, j'ai eu un coup de fil de l'hôpital, comme quoi il y avait eu cet événement qui était en cours. Et je suis tout de suite redescendue pour aller au HUG parce que nous, à l'hôpital, on a reçu 4 blessés brûlés qui ont été admis au HUG. Et donc, il fallait descendre pour gérer la situation, vu que je m'occupe de la communication et notamment des relations avec la presse. Cette catastrophe, on a tout de suite compris que c'était dramatique.
Et aux premières loges de cette organisation de crise pour tenter de secourir les jeunes blessés, brûlés, les équipes médicales, mais aussi celles chargées de coordonner l'information et l'accueil des familles. Parmi la centaine de blessés, 4 ont donc été pris en charge par les hôpitaux universitaires de Genève.
La typologie, c'est des jeunes qui en vont de 15 à 28, 30 ans, et dans tous les hôpitaux qui sont gravement brûlés. Ouais. Et comment on vit après ça? Ces 115 blessés ont été évacués soit sur l'hôpital le plus proche, l'hôpital de Sion, et ensuite ils ont été dispatchés dans différents hôpitaux en fonction de la gravité des brûlures. Il y a eu une évacuation sur tous les hôpitaux universitaires de Suisse, sachant que les HUG, nous n'avons pas de centre de grands brûlés. Donc, en fait, les personnes que nous avons reçues ont des blessures qui sont des brûlures, mais pas aussi importantes que d'autres personnes qui ont été évacuées directement sur des centres de grands brûlés, c'est-à-dire l'hôpital de Lausanne, l'hôpital universitaire de Lausanne et l'hôpital universitaire de Zurich.
Une soirée pour fêter la nouvelle année dans une grande boîte de Grand Montana avec de nombreux jeunes, un événement dramatique qui, je cite, « touche tout le monde », nous a dit Frédéric Tissandier.
Moi, je suis maman, ma fille, elle a 22 ans, elle aurait pu être dans cette boîte et elle aurait pu, elle aussi, fêter le nouvel an avec ses amis au ski. Donc, c'est vrai que bon, il y a un lien avec les gens de Grand Montana, on ne peut pas être indifférent. C'est dramatique, tous ces jeunes qui ont brûlé dans des circonstances qui restent encore à élucider, mais c'est vraiment triste, dramatique et ça touche tout le monde. Il faut imaginer un centre où on s'amuse, où on fait la fête avec 400 personnes et il y en a une partie qui décède. C'est un petit peu comme si sur les boîtes de la BD Citron, un tel drame le jour de l'an se déroulait. Donc il y a énormément d'empathie pour les parents, pour les victimes et pour toute cette jeunesse.
Frédéric Tissandier, calédonienne expatriée depuis une quinzaine d'années en Suisse. Elle est directrice de la communication des hôpitaux universitaires de Genève. Elle fait partie des témoins indirects de cette nuit de drame à Crans-Montana.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
À la une de l'actualité sur le territoire, à présent la fin d'une semaine dominée par les fêtes de fin d'année. Ce qu'on appelle traditionnellement la trêve des confiseurs est désormais donc terminée. Dès lundi, l'actualité politique va de nouveau occuper une partie du devant de la scène, Jean-François Bodin.
Oui, avec une échéance que tout le monde a en tête, la rencontre à Paris le 16 janvier entre les délégations politiques calédoniennes et le président de la République. Afin d'apporter des clarifications à l'accord du 12 juillet, j'ai décidé d'organiser un nouveau temps d'échange pour poursuivre le dialogue avec l'ensemble des partenaires, avait écrit Emmanuel Macron, juste après l'annonce de l'abandon par le gouvernement du projet de consultation anticipée sur l'accord de Bougival à la mi-décembre. Mais pour l'instant, pas plus de précisions ni sur cette rencontre, ni sur son format. Lundi, une délégation de 9 députés ensemble pour la République arrive en Nouvelle-Calédonie pour une visite de 5 jours. Un déplacement initié par le député Nicolas Metzdorf pour que les collègues de son groupe à l'Assemblée nationale s'imprègnent de la situation en Calédonie et en mesurent les réalités. Parmi les membres de cette délégation, 4 anciens ministres. Antoine Armand, ancien ministre de l'économie et des finances. Prisca Thévenot, qui fut porte-parole du gouvernement Attal. Marie Lebec, qui était ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement. Et Guillaume Kasbarian, ancien ministre de la fonction publique. Les autres membres de la délégation sont Julie Delpech, députée de la Sarthe est vice-présidente du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée, Jean Terlier, député du Tarn, Anaïg Lemeur, député du Finistère, Anne-Sophie Ronceret, députée des Yvelines et Sandra Marceau, députée de la Charente. Au cours de leur séjour, ils auront des rencontres avec les responsables institutionnels, mais ils multiplieront aussi les visites de terrain. Une fois leur séjour terminé, les 9 parlementaires Ensemble pour la République doivent présenter un rapport destiné, je cite, à préparer la suite des débats législatifs.
7h08, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Rythme Bleu. On marque une première pause dans ce journal et on verra ensuite le reste de l'actualité nationale et internationale.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
L'actualité en métropole, les chiffres de la délinquance autour de la nuit de la Saint-Sylvestre sont définitifs. 505 interpellations, 403 gardes à vue, c'est 100 personnes de plus arrêtées par rapport à l'an passé. 1173 voitures également brûlées, 17% de plus que l'an dernier. À Saint-Étienne, notamment, la nuit du 1er de l'an a été agitée, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque des tirs de mortier d'artifice et même des tirs de cocktails Molotov. En métropole, toujours en raison d'un nouveau cas de dermatose nodulaire, 113 vaches devraient être abattues ce vendredi en Ariège, Michael Juneski.
Oui, le troupeau a été vacciné il y a quelques jours, mais la protection n'arrive qu'au bout de 3 semaines chez les agriculteurs. La mobilisation des paysans contre la gestion gouvernementale de cette crise sanitaire persiste, en Occitanie notamment. Plusieurs blocages routiers sur l'A75 en Lozère et sur l'A64 en Haute-Garonne. Du côté de l'exécutif, l'entourage de Sébastien Lecornu promet des mesures en faveur des agriculteurs. Première annonce attendue normalement ce dimanche par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Mais d'ores et déjà, le Premier ministre prévient qu'il faudra un budget pour les mettre en œuvre. Et ça, ce n'est pas encore fait.
L'actualité à l'international à présent. Depuis dimanche, l'Iran est secoué par des manifestations les plus importantes du pays. Si en 2022, le soulèvement populaire faisait suite à la mort de Mahsa Amini, jeune kurde iranienne de 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile, eh bien cette semaine, la contestation porte sur le porte-monnaie. Au moins 6 morts, de nombreux blessés aussi. Téhéran avertit que toute intervention des États-Unis serait une ligne rouge à ne pas franchir et entraînerait une riposte. Donald Trump, de son côté, affirme que les États-Unis sont prêts à intervenir si jamais des manifestants étaient tués en Iran. Mathis Lang pour Europe 1.
Initialement, tout part d'une contestation dimanche dans la capitale Téhéran. Certains commerçants décident de fermer boutique pour témoigner de leur mécontentement face à la situation économique et notamment l'inflation galopante. Mais mardi, la mobilisation prend une tournure politique lorsqu'une dizaine d'universités de tout le pays se joint au mouvement. Ces derniers jours, des bâtiments publics ont été pris pour cible et des affrontements ont eu lieu avec la police, notamment dans les villes de l'ouest de l'Iran. Parmi les slogans « Mort à Khamenei, abat le dictateur », pour David Rigolero, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Moyen-Orient, le point de bascule est proche.
C'est plus un petit mouvement, c'est un mouvement d'ampleur, parce qu'il y a une défiance généralisée vis-à-vis des autorités incarnées par le régime de la République islamique. Il suffirait d'une étincelle pour que ça bascule, tout simplement parce que le régime n'est pas en situation de répondre aux demandes les plus élémentaires de sa population. C'est une situation inédite, probablement la plus dangereuse pour le régime depuis sa fondation en 1979.
Il y a quelques minutes, dans un communiqué, la police iranienne prétend comprendre les revendications économiques, mais prévient qu'elle ne tolérera aucun chaos. Hier, les affrontements entre civils et forces de l'ordre ont causé la mort de 6 personnes.
Mathis Lang pour Europe 1. 7h13, seconde pause dans ce journal. On parlera sport juste après, notamment tennis avec la finale du BNC Catherine Bonnet qui s'est jouée hier soir.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Jusqu'au vendredi 9 janvier, gagnez un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Vous séjournez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offerts par l'hôtel de Poé ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Toute l'année, l'hôtel de Poé vous accueille dans une ambiance conviviale et familiale et Cap ULM vous fait survoler le lagon de Poé et le cœur de Vaud. Toutes les actus sur le FB de l'hôtel. Tirage au sort vendredi 9 janvier à 14h. Chance au 40-20, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
On termine ce journal avec le sport et la fête du tennis. Première partie qui est terminée. La finale du BNC Catherine Bonnet s'est jouée hier soir au Receiving devant plusieurs centaines de Calédoniens. Michael Juneski.
Et avant la grande finale, un match de double exhibition était organisé. Un duel Europe contre Océanie. D'un côté, la paire tricolore Pierre-Hugues Herbert, Dan Hadid. Et de l'autre, le Calédonien Maxime Chazal, associé aux joueurs des Mariannes du Nord, Colin Sinclair. Les Européens se sont imposés au super tie-break. Le score 4-2. 84-10-3. Devant un public conquis par le spectacle, Pierre Hugerbert a eu quelques minutes pour souffler avant de revenir sur le court numéro 1 du tennis club du Receiving. En finale du BNC Catherine Bonnet, il était opposé à Clément Tabur. Un très beau match offert par les 155e et 200e joueurs à l'ATP. Après 3-7 accrochés, c'est Clément Tabur qui s'est imposé 4-5, 5-4, 10-6.
Le grand vainqueur, Clément Tabur.
Les conditions étaient parfaites, il y avait du monde, j'ai hyper bien joué. Je crois que c'est ce que je voulais le plus, en tout cas, c'était de me donner confiance sur cette prépa que j'ai pu faire cet hiver. Donc non, je suis trop content. Et puis voilà, j'attaque 2026 avec pas mal de confiance, donc c'est top. Bah, je suis sur le circuit toute l'année à l'étranger ou même en France, mais on n'a pas du tout cette ambiance club que je retrouve que chez moi à Nantes. Et le retrouver en tournoi, ça fait plaisir et chaud au cœur parce qu'on est hyper bien accueillis. Et ouais, ça donne juste envie de bien faire, de montrer le bon exemple et de revenir.
Une victoire qui s'est jouée sur des petits détails, mais ce n'est pas ce que retient Pierre Hugerbert, finaliste.
C'est génial, franchement, j'ai pu faire 3 matchs avant le Challenger BNC la semaine prochaine. C'était une super finale, Clément a très bien joué, et ça s'est joué à pas grand-chose, et malheureusement ça n'a pas tourné pour moi, mais c'est cool, franchement je suis content de cette semaine ici, rencontrer beaucoup de gens très sympas et... qui nous ont accueillis avec beaucoup d'amour. Donc voilà, très heureux d'avoir pu déjà tenir ces 3 matchs, d'avoir profité des nuits fraîches et d'avoir partagé avec le public de Nouméa.
Et Pierre Hugerbert et Clément Tabur se retrouveront dès la semaine prochaine du côté des terrains de la Ligue au Wentoro pour le Challenger de Nouméa.
Oui, les matchs de qualification de ce BNC Tennis Open débuteront à 10h30, donc demain, sur les terrains de la Ligue au Wentoro. Le tirage au sort du Challenger est prévu à 18h ce soir au Méridien. Un tirage au sort qui est ouvert au public. Le sport côté calédonien, toujours avec du football. On notera que la sélection A de Nouvelle-Calédonie affrontera l'USSA Vertou, club de National 3 ce soir à 22h30, heure de Nouméa. Un match de préparation au barrage intercontinentaux de la Coupe du Monde. On signalera que parmi les joueurs convoqués, un habitué de la sélection manque à l'appel, mais c'est pour une bonne raison. Germain Ouéguéné s'est envolé hier pour la Polynésie française. Le désormais ancien attaquant de l'AS Magenta s'est engagé avec le Tahiti United pour participer au championnat professionnel d'Océanie. La première réaction de Germain Ouéguéné, c'est au micro de Radio Rythme Bleu. Écoutez.
Je suis fier de participer à cet événement qui est l'OFC Pro League, parce que c'est une première dans le Pacifique. Je pense que je suis le premier Calédonien qui vient de la Nouvelle-Calédonie qui va pouvoir participer à cette compétition-là. Et puis, du coup, c'est une fierté aussi. C'est un choix très dur que j'ai fait parce que je laisse derrière moi ma famille et aussi mon travail. Et du coup, je suis très heureux et très content de faire cette compétition. Je suis arrivé hier de Calédonie. Et là, aujourd'hui, j'ai entraînement à 8h30. Et je suis impatient d'aller voir les coéquipiers, faire leur connaissance. Voilà, je suis très content de représenter notre caillou. Je suis venu à Tahiti, c'est pour pouvoir travailler, pour continuer à performer, pour être au top au mars contre Jamaïque, si je serai encore sélectionné avec l'équipe de la Nouvelle-Calédonie.
L'OFC Pro League débutera le 18 janvier à Auckland. Germain Ouéguéné et Tahiti United affronteront le South Melbourne FC avant de rencontrer le PNG Ekari FC et les Solomon Kings FC. Premier week-end de l'année, déjà plusieurs rendez-vous sportifs sur la scène nationale et internationale, avec notamment du football. Les joueurs du championnat de France de Ligue 1 sont de retour sur les pelouses, Michael.
Oui, avec la 17e journée et le leader du classement, Lens, qui est aujourd'hui sur le terrain de Toulouse. Le score était toujours de 0-0 après 20 minutes de jeu. Les Lensois qui vont tout faire pour tenter de rester sur la première marche du podium. Dès demain matin, la suite des rencontres et ce duel Monaco-Lyon à partir de 3h. Les Lyonnais sont 5e, les Monégasques 9e du championnat de France. À 5h, Nice accueillera Strasbourg. Et à 7h05 ce dimanche, un choc qui intéressera directement le haut du tableau entre Lille, le 4e, et Rennes, le 6e. Et puis, foot toujours, le début des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est demain. Le Sénégal rencontrera le Soudan et le Mali affrontera la Tunisie. Lundi matin, le pays hôte de la compétition, le Maroc, fera face à la Tanzanie et l'Afrique du Sud retrouvera le Cameroun.
Après le foot, place au rugby.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
du rugby à suivre ce week-end avec la 14e journée du top 14.
Et dès ce soir en ouverture, un duel des extrêmes entre la Lanterne Rouge Perpignan et le Stade Toulousain, leader. Notez que le Calédonien Peato Mauvaka, tenu éloigné des terrains depuis le mois d'avril dernier en raison d'une blessure, figure dans le groupe de Toulouse. Il débutera le match sur le banc des remplaçants. Les autres rencontres programmées, Lyon-Pau, Montpellier-Bayonne, Stade Français-Castres, Montauban-Clermont et Union Bordeaux-Bègles Racing 92. Et puis lundi, La Rochelle accueillera Toulon.
Et enfin, au chapitre sport mécanique, c'est ce week-end que débute en Arabie Saoudite le Dakar 2026.
Oui, il s'agira de la 48e édition du Rallye Raid. 325 véhicules, motos, autos, camions seront au départ. La performance de Sébastien Loeb, l'ancien champion du monde des rallyes, qui n'a encore jamais gagné le Dakar, sera suivie de près. En 9 participations dans la catégorie auto, il est monté 5 fois sur le podium, mais il attend toujours le jour du sacre, désormais à l'âge de 51 ans. Le prologue, long d'une trentaine de kilomètres, se courra donc ce dimanche pour nous, autour de la ville portuaire de Yanbu, sur les rives de la mer Rouge.
Merci beaucoup Mickaël, 7h passées de 20 minutes après le sport, on parle météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière. Et ce matin, sur le nord et l'est de la Grande Terre, ainsi que le nord des Loyautés, les nuages domineront, mais les pluies resteront rares. Sur les autres régions, les éclaircies l'emporteront, contrariées sur la pointe sud-ouest par la remontée de nuages bas. Et en cours de matinée, le vent de secteur sud-est s'établira entre 10 et 15 nœuds sur le nord-ouest et proche de 10 nœuds. Ailleurs, on va piquer une tête du côté de cet après-midi sur l'est de la Grande Terre et l'extrême nord. Le temps sera souvent très nuageux et parfois ponctué d'averses. Ailleurs, nuages et éclaircies alterneront. L'Alizé soufflera entre 10 et 15 nœuds. Sur le nord-est, il sera faible, voisin de 5 nœuds de secteur est. Et les températures maximales seront stables, comprises entre 27 et 30 degrés. Localement, autour de 31 degrés sur le sud-ouest. On va terminer avec l'agenda des marées. 8h09, 1m68, donc marée haute. Et 14h21, 0m73. Voilà pour le bulletin météo, Léo Fichou.
Merci beaucoup, Ismaël, pour la météo, mais aussi pour la technique. C'est la fin de ce journal, 7h22. Minutes. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouvera à 8h pour le rappel des titres. À tout à l'heure.